Histoire du christianisme en France. Jean-Yves Delors et Michel Fauquier.
Michel Fauquier, bonjour.
Bonjour, monsieur Delors.
Nous avions parlé la semaine dernière, nous étions en train de parler de la Bretagne, la Grande Bretagne, pas notre petite Bretagne à nous.
Oui, la Bretagne romaine.
Voilà, et vous nous disiez qu'il y avait quand même elle a été évangélisée relativement tôt.
Oui, puisque nous avons un fait qui est attesté de façon formelle et spectaculaire, c'est la présence en 314 en Arles de trois évêques bretons.
Dont un évêque en britannique, oui.
Oui. Si vous voulez, vous voyez ce que ça veut dire, c'est ce que nous disions dans les émissions précédentes. Si en 314, vous avez déjà trois évêques établis qui sont capables de venir avec autorité se représenter la Bretagne à un concile qui se situe en Arles.
Ça fait un bout de chemin.
Ça fait plus de 1000 kilomètres, n'est-ce pas, pour y parvenir. On a ici quand même la trace d'une chrétienté qui doit être assez ancienne. Hein ? Bon, alors, comme on sait que les Romains passent en Bretagne assez tôt, dans un premier temps avec César, puis de façon plus définitive sous le règne de Claude, on peut penser que les chrétiens n'ont pas dû tarder à suivre. Et donc, l'idée d'une évangélisation de la Gaule qui commence, disons, au IIe siècle après Jésus-Christ, rappelons que quand on dit IIe siècle après Jésus-Christ, nous y faisions allusion tout à l'heure, c'est pas un siècle complet compte tenu de la date de la mort du Christ. Eh bien, au IIe siècle après Jésus-Christ, ça devient quand même beaucoup plus probable que cette évangélisation ait déjà commencé. Et au IIIe siècle, c'est absolument certain. On ne devient pas, on fonde pas comme ça trois évêchés l'on pense à convoquer à 1000 km de là en 14 ans. Hein. Ça n'a pas grand sens.
Alors, pour ce qui est vraiment historique, pour ce qui est de la Gaule, c'est les martyrs de Lyon. Parce que là, 177, il y a des persécutions à Rome, mais il y en a aussi en Gaule, ce qui prouve bien qu'il y a des communautés chrétiennes. Alors, il y a des tortures, il y a des procès, il y a des supplices. C'est un événement important, ça.
C'est un événement tellement important qu'il va être l'objet d'une diffusion exceptionnelle qui fait que nous possédons les actes de ces martyrs, qui sont extrêmement précis, qui ont fait l'objet d'une publication scientifique aux éditions du CNRS, et donc d'un colloque qui est à l'origine de cet événement, et qui est intéressant à plus d'un titre. D'abord, nous le disions à propos des patronymes. Prenons les deux plus connus, pour simplifier, donc Potin et Blandine.
Oui.
Potin, c'est un nom grec.
Ah oui.
Blandine, c'est un nom gallo-romain. Et on a une cinquantaine de martyrs pour les martyrs de Lyon. Eh bien, cette remarque pourrait être étendue à ce que l'on perçoit de la communauté chrétienne à Lyon à ce moment-là. Or, qu'est-ce que Lyon ? Il faut le rappeler. Lyon, c'est la capitale des Gaules.
Eh oui, Lugdunum.
Lugdunum, c'est ça.
Oui.
Hein ? Elle est à la jonction de provinces qu'on appelle les Lyonnaises à l'époque et qui forment la Gaule, ce que nous appelons la Gaule, parce que la Provence, pour faire simple, c'est considéré comme une autre partie. Provence vient de provincia, en fait.
Ah oui.
Voilà. Et la Germanie, la bordure germanique, est considérée comme une autre composante, même si on trouve un certain nombre de textes qui désignent l'ensemble de ces espaces comme étant globalement la Gaule. Enfin, la Gaule, au sens stricto sensu, c'est celle dont la capitale est Lyon. Et dans cette capitale, tous les ans, comme le veut l'administration romaine, il y a une réunion annuelle qui est tenue par le gouverneur local et qui, à cette occasion-là, fait procéder à des sacrifices à Rome et à l'empereur.
Oui.
Bien. Et dans ce cadre-là, dans le cadre des persécutions qui ont lieu contre les chrétiens, en particulier au IIe et IIIe siècle, eh bien, ces chrétiens sont contraints de implicitement renier leur foi. On leur demande pas formellement de renier leur foi, mais disons d'adhérer à la foi de l'Empire. On est dans une tradition de type ancienne, qu'on ait d'autres dieux que ceux de Rome n'a jamais dérangé dans une certaine limite. Ce qu'il faut, c'est impérativement adhérer à ceux de Rome. Ce à quoi les chrétiens se refusent. Alors, l'événement a tout de suite une très grande importance à cause du lieu, à cause du contexte dans lequel les choses ont lieu. D'une certaine manière, l'autorité de Rome est en cause.
Ah oui.
Et surtout, une cinquantaine de martyrs, ça fait certainement plusieurs centaines de chrétiens. Et peut-être beaucoup plus. D'autant que parmi eux, il y a un diacre d'une autre église qui est l'église de Vienne. Vienne en Gaule. En France actuelle, si vous préférez. Donc, on a affaire ici à un foyer extrêmement important, dont on peut avoir une idée dans une zone complètement à l'opposé. C'est en fait deux générations avant, on est en 111-112, à travers la lettre que Pline le Jeune, envoyée par l'empereur Trajan en Orient, en Bithynie, lui adresse pour lui dire sa stupéfaction de voir un Orient littéralement pullulé de chrétiens. On est à un moment où, manifestement, le christianisme, qui est évidemment, dans un premier temps, installé en Orient, est en train de s'implanter profondément et durablement. Et donc cet événement de Lyon en 177 nous montre, sinon on aurait peu d'informations, qu'en Occident, le problème qui est déjà sensible en Orient, eh bien en Occident, ce problème est en train de le devenir aussi. Et c'est pour cela que les autorités romaines vont intervenir avec autant de virulence. Les actes des martyrs font longuement allusion, en particulier au martyr de la petite Blandine. On dit qu'elle avait environ 14 ans, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Et la façon dont elle a été martyrisée a quand même soulevé au minimum l'interrogation et certainement l'indignation d'une partie de la population.
Eh bien, Michel Fauquier, je vous propose de reparler des martyrs de Lyon dans une prochaine émission.